et bienvenue dans cette émission. Des médias ont été pris pour cible des violentes attaques dans certaines provinces de l'Est où les combats opposent des milices de la rébellion aux forces gouvernementales, indique l'ONG Journaliste en Danger GED dans son rapport publié vendredi 1er novembre. C'était à l'occasion de la célébration le 2 novembre 2024 de la 11e journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans ces documents, GED révèle que les graves décisions qui ont été prises dès le début de cette année, en février 2024, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, notamment d'interdire aux médias de diffuser des informations en rapport avec la rébellion dans l'Est de la RDC, de ne plus diffuser des débats ou des émissions à téléphone ouvert à propos des opérations militaires ou même d'interviewer les forces dites négatives, constituent des actes de censure qui violent les droits garantis par la Constitution. Ce rapport de GED est intitulé « Nouvelle loi sur la presse, nouveaux abus contre les journalistes, les nouveaux visages de la censure en RDC ». Quelle analyse faites-vous du rapport de GED sur la situation des journalistes en RDC ? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons ici au studio Bruno Molisson, il est vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle. Bonsoir Bruno Molisson.
Bonsoir.
En ligne, Tivis Djivoadi, il est secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger GED en sigle. Bonsoir Monsieur Tivis Djivoadi.
Bonsoir à vous et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Et aussi en ligne, Charles Mouchizi, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, il est aussi spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits des presse. Bonsoir Maître Charles Mouchizi.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, célébration le 2 novembre 2024 de la 11e journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, Journaliste en Danger GED a publié son rapport annuel 2024 intitulé « Nouvelle loi sur la presse, nouveaux abus contre les journalistes, les nouveaux visages de la censure en RDC ». Ce rapport est rendu public dans un contexte politique et sécuritaire marqué par la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC. Les hostilités dans cette partie du pays depuis l'occupation de plusieurs territoires par des rebelles soutenus par les Rwandais se sont accompagnés d'un regain des attaques contre la presse. Des médias ont été pris pour cible des violentes attaques dans certaines provinces de l'Est où les combats opposent des milices de la rébellion aux forces gouvernementales. Plus de détails dans ces rapports, de ces rapports plutôt avec Alain Hirong.
Pour GED, en dépit de la promulgation de la nouvelle loi, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC, la situation générale de l'après les états généraux de la presse tenus en 2022 se caractérise par des tentatives répétées de museler la presse ou d'imposer une ligne de conduite aux organes de presse et de réduire au silence les voix discordantes. Selon GED, les graves décisions qui ont été prises dès le début de cette année, en février 2024, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, notamment d'interdire aux médias de diffuser les informations en rapport avec la rébellion dans l'Est de la RDC, de ne plus diffuser les débats ou des émissions à téléphone ouvert à propos des opérations militaires ou même d'interviewer les forces dites négatives constituent des actes de censure qui violent des droits garantis par la Constitution. En conclusion, GED considère que la situation sécuritaire fragile, notamment en raison des conflits armés persistants à l'Est du pays ne doit pas servir de prétexte aux autorités pour entraver le travail normal de la presse et imposer un régime de censure sur les médias.
Merci Alain Hirong. Tivis Djivoadi, on commence avec vous. Vous êtes secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GED en sigle. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire à travers l'intitulé de votre rapport « Nouvelle loi sur la presse, nouveaux abus contre les journalistes, les nouveaux visages de la censure en RDC ».
Bien, d'abord, je vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de ce rapport important sur la situation de la liberté de la presse dans notre pays, la République démocratique du Congo. Évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas lu ce rapport, je crois qu'il est important de rappeler dans quel esprit nous l'avons rédigé. La date du 2 novembre que vous avez évoquée, que nous avons choisie pour publier ce rapport, n'a pas été pris au hasard. C'est la date de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et à GED, nous considérons que L'un des grands maux dont souffre notre pays, surtout en matière de droits de l'homme, c'est cette culture de l'impunité. La liberté et la paix dans notre pays, tout comme le droit à l'information, sont garantis et reconnus par des lois et particulièrement par la Constitution. Mais il se trouve que année après année, il y a des individus, il y a des personnes qui se permettent de violer sciemment et impunément tous ces prescrits de la loi, tous ces droits, ils ne sont jamais inquiétés pour cela. Et pour nous, nous pensons que lutter contre l'impunité, c'est évidemment décider enfin de pouvoir mettre des noms sur les visages de ces personnes qui sont identifiables et exiger que des sanctions soient leur appliquées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi pour qu'il faut savoir pour comprendre ce rapport, c'est que, comme vous l'avez dit, il est rendu public dans un contexte particulier. C'est le contexte de la guerre à l'Est qui oppose les miliciens aux forces gouvernementales. Et nous avons observé que cette crise sécuritaire à l'Est du pays sert de prétexte aux uns aux autres, soit pour empêcher aux médias de diffuser des informations qui pourraient déranger leur position sur le terrain, soit pour imposer une ligne de conduite aux médias qui sont sous leur contrôle. Et je pense que c'est dans ce cadre que nous avons dénoncé effectivement les décisions qui ont été prises par le CESAF pour restreindre la couverture médiatique de ce conflit.
Voilà, dans votre rapport, vous dites que des médias ont été pris pour cible des violentes attaques dans certaines provinces de l'Est. Vous pensez qu'il faille lier ces actes de violence aux mesures qui ont été prises au début de l'année par le CESAC?
Non. Je vous ai dit d'abord, il faut noter qu'à cause de ces affrontements entre les militaires, des forces armées et les rebelles du M23 particulièrement, qui occupent plusieurs territoires. À cause de ça, il y a beaucoup de médias qui ont cessé de fonctionner. Il y a beaucoup de journalistes qui ont fui leur zone, leur localité, pour se réfugier dans des lieux plus sûrs pour éviter des représailles, pour éviter d'être attaqués, parce que les installations de ces médias ont été attaquées, parfois même détruites. Donc ça, c'est une chose en ce qui concerne les mesures qui ont été prises au niveau de la rébellion, ce que nous observons sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne le CESAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout ça, à cause de cette guerre, le CESAC semble se servir de cette guerre pour imposer des restrictions par rapport à la couverture de cette guerre par les médias nationaux ici. C'est ce que nous considérons comme étant des violations, parce que nous pensons qu'il n'y a aucun texte qui autorise le CESAC aujourd'hui à pouvoir décider de ce qui doit être diffusé dans les médias et ce qui ne doit pas l'être, ou d'imposer une ligne de conduite à des médias qui ont vocation à être des médias libres et indépendants et de pouvoir travailler de manière tout à fait indépendante sans avoir des interférences extérieures.
Oui, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Hein, la guerre, c'est une situation d'exception. Le CESAC étant le régulateur, n'est-ce pas, des contenus des médias, quel aurait été son rôle ou quel devrait être son rôle dans cette situation de guerre?
D'abord, je voudrais vous rappeler que le CESAC, je parle sous le contrôle de M. le vice-président Bolisson qui est dans le studio et que je salue bien, je pense que le CESAC a pour mission, entre autres, pour mission principale, de défendre et de promouvoir la liberté de la presse et le droit du public à une information. Hein, le droit du public à une information saine et fiable, bien sûr, qui ne puisse pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il s'agit donc, d'après nous, d'une mission qui est beaucoup plus pédagogique que répressive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun texte qui donne, en dehors de cadre qui a été fixé pour dire on peut contrôler le contenu, mais on ne peut pas en amont déjà décider de ce qui doit l'être, et ce qui a été diffusé, ce qui ne doit pas l'être, et d'imposer aux médias les émissions, parce que là, dans les interdictions, non seulement on a interdit que des informations sur la guerre ne soient diffusées sans ce qu'ils appellent la présence des autorités gouvernementales, mais on ne nous a pas précisé qui sont ces autorités gouvernementales. S'agit-il du porte-parole du gouvernement? S'agit-il du porte-parole de l'armée? Ou s'agit-il du ministre de la Défense? Donc cela veut dire que tant que ces personnes représentantes du gouvernement ne sont pas disponibles, les journalistes ne peuvent pas faire leur travail. Deuxièmement, on a interdit que l'on puisse organiser des émissions à territoire ouvert où les auditeurs, ça veut dire le public, doivent pouvoir s'exprimer sur une question d'intérêt général pour son propre pays. Troisièmement, non seulement on essaye de lier la ligne conduite, mais on interdit, y compris aux médias, de pouvoir donner la parole à ce qu'ils appellent les forces négatives. Je pense que là, le CETAC va au-delà de ses prérogatives et veut absolument contrôler les médias dans leur façon de fonctionner. Et nous pensons que ça n'est pas de ses prérogatives.
Oui, et depuis que le CETAC avait publié ces mesures, le GED avait jusque-là recensé combien de médias qui sont venus, n'est-ce pas, se plaindre, disant qu'ils n'arrivent pas à bien faire leur travail, compte tenu du fait qu'il y a ces mesures, ils sont soumis, n'est-ce pas, à ces mesures de CETAC.
Oui, justement, c'est ça ce que nous appelons les conséquences perverses de la censure. La censure, ça veut dire que c'est une interdiction qui est assortie des sanctions probables. Ça veut dire que c'est une menace. On vous dit, si vous allez dans ce sens, si vous diffusez, on va vous sanctionner. Résultat, les médias appliquent sur eux-mêmes ce que nous appelons l'autocensure. Et c'est ça, c'est pernicieux. L'autocensure est encore plus grave, est une grande atteinte à la liberté de presse que le fait d'arrêter des journalistes ou de les envoyer en prison. C'est ça l'effet pernicieux de la censure.
Merci. On vous regarde encore dans cette émission. Bruno Bolisson, vous êtes vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Les mesures que le CESAC avait prises en février dernier constituent des actes de censure qui violent le droit garanti par la Constitution selon ces récents rapports, n'est-ce pas, des GED. Comment vous réagissez à cela?
Merci beaucoup, monsieur Guy, pour l'opportunité que vous nous offrez à éclairer l'opinion publique nationale et transnationale par rapport à ces rapports qui est sorti il y a quelques jours. Vous avez compris le déploiement de l'énergie tel qu'il est dépensé par mon ami Tivadi. C'est comme si ces rapports-là ne se limitaient qu'au seul CESAC. Alors que là, dans la couverture, déjà, vous avez plusieurs facettes, plusieurs figures que les GED a qualifiées de figures de la censure. Alors, déjà, ce rapport, à mon avis, contient des confusions dangereusement suspectes. Il y a une confusion à trois niveaux, je dirais. Le premier niveau de la confusion de tous ces rapports, c'est on confond censure et régulation. Le CESAC a reçu la mission constitutionnelle et légale de réguler les contenus des médias. Le CESAC n'a pas pour rôle de régenter les intentions des journalistes ou d'embrigader les journalistes. Quand vous lisez la loi organique sur le CESAC en son article 8, on dit que le CESAC a comme mission de protéger l'exercice de la liberté de la presse, de protéger le libre développement des médias. Mais tout cela est encadré, quand vous lisez le deuxième alinéa, dans le respect du code éthique et de déontologie librement adopté par les journalistes. Et après les missions du CESAC, il y a maintenant les attributions. Le CESAC a parmi ses attributions le rôle de promouvoir le développement d'une information de qualité, d'une information vérifiable. Pas des intox, pas de fake news. Le CESAC a comme rôle de combattre les fake news. Le CESAC a comme rôle de protéger la qualité de l'information livrée au public, aux consommateurs. Et aujourd'hui, j'apprécie bien le travail que GED fait depuis plusieurs décennies. Mais GED, ça signifie quoi? GED signifie journaliste en danger. Mais le journaliste est en danger par rapport à qui? D'abord par rapport à lui-même. GED devrait commencer par là, faire l'inventaire, nous présenter l'écologie du journaliste congolais. Et GED allait nous dire s'il est sincère qu'aujourd'hui, quand on parle des journalistes en RDC, il y a plus de coulounes avec plumes, il y a plus de coulounes au micro que de vrais journalistes responsables. C'est cela le problème. Alors, le CESAC ne vient réguler qu'en troisième étage en matière de nettoyage de l'information, du contenu médiatique. Il y a d'abord le journaliste lui-même qui doit être responsable par rapport au contenu médiatique qu'il produit.
La notion des responsabilités des journalistes.
Voilà, responsabilité. Doit savoir que ça, c'est une information vérifiable, c'est une information vraie. J'ai qualité pour donner cette information. J'ai pas qualité pour donner, parce que j'ai pas vérifié. Je n'ai pas été en contact des sources. Il y a d'abord ce travail-là d'auto-régulation au niveau du journaliste. Le deuxième niveau de la régulation, nous disons auto-régulation au niveau secondaire, c'est au niveau de l'UNPC. les syndicats des journalistes, qui encadrent le comportement des journalistes. Et le CSA ne vient qu'en troisième position, la régulation, pour contrôler maintenant le contenu de ce que le journaliste a mis à la surface. Alors, du coup, quand on confond le travail de CSA, qui est plutôt la régulation, on pense à la censure, on biaise la démarche.
Mais lorsque vous interdisez formellement, vous vous basez sur quel texte? Parce que Tivis vous a dit qu'il n'y a pas de texte, n'est-ce pas, qui puisse vous donner l'autorisation d'interdire notamment que les journalistes puissent exploiter des informations relatives à la guerre de l'Est.
Il n'y a pas une interdiction, une décision du CESAC interdisant aux journalistes d'exploiter les informations à l'Est. Faux et archi-faux. Le CESAC a émis une directive. On appelle directive une recommandation générale là où la loi est muette. Une directive dans le sens de protéger les journalistes. Que faites attention aux sources d'informations, faites attention aux gens, aux sources que vous donnez. Et le CESAC a voulu que quand on parle des émissions de débat, des émissions militaires, des émissions de guerre, ça soit fait par des experts. C'est ça, le texte, c'est ça, ne parle pas des représentants du gouvernement. Non, c'est ça, pas des experts à la matière. Vous allez voir aujourd'hui un porteur d'Ndolo Libongo s'improviser spécialiste en information de guerre, alors qu'il ne sait même pas faire la différence entre un énorme de forme AK-47 et une roquette, par exemple. Il va vous dire que non, les rebelles sont renforcés en équipement. Ils ont acquis dernièrement une centaine d'armes de chars Abrams. Je vais vous dire, monsieur Guimaté, il n'y a pas un seul char Abrams en Afrique, parce que ça coûte extrêmement cher. Alors, le CESAC a ce rôle-là, de protéger d'abord l'opinion publique pour ne pas consommer de n'importe quoi, mais aussi de protéger les journalistes. C'est très facile de dire que non, on musée la presse, on réduit le travail de la presse, mais une fois qu'on vous interpelle devant les cours et tribunaux ou devant les instances sécuritaires, justifiez, vous avez donné telle information, mais voici ce qui se passe sur terre. On commence à trembler. C'est là que j'ai d'intervient, Calico, message, tout et tout. On connaît. Moi, je suis journaliste professionnel. Je peux pas, je n'ai rien à redire par rapport au travail des GED. Mais je dis attention. Nous devons faire attention au concept. Nous devons faire attention à la vie privée des mots. Quand on utilise, on dit que le président du CESAC a l'image d'un censeur ou de celui qui réduit la vérité, c'est injuste. C'est une image biaisée. Le CESAC n'a pas fait nous sommes au mois de novembre, le 2 novembre. Toute l'année, le CESAC n'a pas produit que cette seule directive-là. Le CESAC a organisé des séminaires d'encadrement des journalistes, rappelant les sens des responsabilités, conformément à sa feuille de route qui voulait qu'il y ait une sensibilisation en amont plutôt qu'une flagellation en aval.
Voilà. Lorsque vous parlez de l'aspect source d'information, vous savez très bien que nous sommes dans un contexte où les journalistes accèdent difficilement à l'information fiable. Vous demandez aux journalistes de faire attention, n'est-ce pas, aux sources d'information. Est-ce que pendant ce temps, vous facilitez la tâche aux journalistes pour qu'ils puissent accéder à la bonne, à la vraie information?
Le problème, mon cher Guy, ce n'est pas de faciliter la tâche. Oui, faciliter la tâche, mais c'est plus dans ça des rappels au sens des responsabilités. Aujourd'hui, prenez le contenu médiatique que nous avons en République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'il y a plus de spécialistes, des analystes politiques, que par exemple des analystes des questions agricoles. Alors que le pays n'a pas que la politique comme priorité. Des analystes, des spécialistes de guerre, qui n'ont jamais vécu là où se passe la guerre, alors qu'il y a d'autres priorités. Nous disons que le CESAC est plus dans la sensibilisation, dans la prévention, dans les avertissements, que dans la flagellation. Parce que si le CESAC était s'est lancé pour systématiquement dans la flagellation, il y aurait des médias qui seraient sanctionnés chaque semaine. Ce n'est pas le cas.
Vous ne pensez pas que par ces mesures que vous avez prises, les journalistes sont en train de s'auto-censurer, comme l'a dit Tivis.
Mais le CESAC n'a pas de police, le CESAC n'a pas d'armée. Nous avertissons. Mieux vaut avertir que venir crier. Oh, liberté, je suis Guy Maté. Non. Mieux vaut sensibiliser en amont, que venir faire des bruits en avant. Le CESAC ne fait que son travail. Le CESAC veille à la qualité de l'information. Je vais vous donner un exemple banal. J'étais encore journaliste à la RTGA. Il y a l'actuel ministre des Transports, était vice-président de l'Ecofin. Je crois dans le gouvernement 1+4. il organise
la transition.
Il organise un point de presse et un journaliste bien cravaté me pose la question. Non, vos militants ont commis des sont en train de tracasser la population dans la frontière à Bounia, tout ça dans la frontière non avec le VPM à l'époque. Le vice-président Jean-Pierre Mabi. Ah bon? La frontière à Bounia, je doute que vous connaissiez le pays. Hein. Il n'y a pas de frontière à Bounia. Il y a une frontière à Maagi, à Aru, à Ariwara. Je vous dis, jusqu'à la fin de la conférence de presse, les journalistes là ne sont pas levés. Hein. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un effort de documentation que les journalistes devraient faire. On est journaliste, c'est peut-être facile, mais on ne peut pas s'improviser journaliste à spécialiste dans tous les domaines.
Voilà. Et depuis que ces mesures ont été prises par les CESAC au mois de février dernier, est-ce que vous avez envisagé de faire une sorte d'évaluation du travail des journalistes?
Les CESAC a des coordinations provinciales aussi dans les zones de conflit, que ce soit le Nord Kivu, l'Ituri à travers l'ex-province orientale où nous avons la coordination avec Sangani, et puis il y a les sites Kivu. Les coordinations provinciales sont en train de relayer un travail d'encadrement. Il n'appartient pas au CESAC d'aller régenter ou embrigader le contenu médiatique de chaque média. Nous, c'était une directive, une recommandation générale. Prenez les coupures de presse aujourd'hui, vous allez voir, contrairement à ce que Chivis a affirmé, vous allez voir que dans le contenu des journaux, il y a une part belle qui est faite de l'évolution de la guerre. Sans que les CESAC ne puissent suspendre tel ou tel autre journal. Nous voulons simplement que les journalistes soient responsables par rapport au contenu qu'ils produisent. Et il y a des journalistes responsables, sans faire la publicité. Quand vous écoutez, par exemple, les trajets d'information des Radio Okapi, des Top Congo, vous sentez que vous avez affaire à des médias sérieux. Il y a des journaux, de la presse écrite également. Quand vous prenez des journaux comme Forum des As, comme Prospérité, vous avez affaire à des journaux sérieux. Mais il y a aussi des journaux qui sont pratiquement de l'autre côté de la transversale. Et c'est là que l'effort doit être conjugué, doit être fait. Pas seulement pour les CESAC, mais pour GED, pour le ministère de la Communication, pour l'INPC. Parce qu'il ne suffit pas seulement de crier qu'il y a un mauvais rapport et tout, mais qu'est-ce que vous avez fait en amont pour éviter ces rapports-là? S'il y a un rapport négatif, ça signifie que les responsabilités sont partagées. Il y a les responsabilités au niveau du gouvernement, peut-être qu'il n'a pas facilité le déploiement des journalistes à tous les coins, parce qu'il y a une loi toujours en gestation, mais je crois que ça va rebondir au cours de cette législature, la loi d'accès à l'information. Parce que peut-être au niveau de l'UNPC, ça faille. Parce que peut-être au niveau du CESAC, il y a eu des manques à réaliser. Mais parce que peut-être au niveau des GED aussi, il y a eu des manques à sensibiliser. Il faut que nous aspirons tous à l'amélioration du tableau négatif aujourd'hui, peint par GED, mais ce travail-là doit être fait de manière conjugée, c'est pas à une seule structure à qui on voudrait jeter des pierres, trop facilement d'ailleurs. Parce qu'on confond régulation et censure, et puis on confond parce que la guerre c'est dans tout le... La guerre c'est pas dans... La RDC a 2,345,409 km², mais la guerre sévit de manière drastique pour prendre ce que mon ami a dit au début, c'est essentiellement dans 2, 3 ou 4 provinces maximum et le reste du pays. Quelle est la qualité du travail produit par les journalistes? Dans les Bandundu, on n'a pas embrigadé, dans le Kwango aussi, on n'a pas embrigadé des journalistes. Quelle est la qualité du travail produit par les journalistes de Kwango où c'est calme? Quelle est la qualité de travail produit par les journalistes qui sont à la Tchopo, où c'est relativement calme?
Et donc, le CESAC rejette en bloc absolument tout ce que GED dit dans son rapport.
Donc, moi, je suis scientifique, je ne peux pas rejeter en bloc. J'ai dit qu'il y a une confusion à trois niveaux. D'ailleurs, je l'ai démontré tout à l'heure, qu'il faut faire un effort pour comprendre, pour dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. En réalité, il y a plus de non-journalistes que de journalistes. Mais voilà. Surtout avec le développement des réseaux sociaux, la frontière devient difficile. Deuxième niveau de confusion, il ne faut pas confondre régulation et censure. La régulation, c'est par rapport à ce qui existe déjà, et c'est ça qui régule, avec son rôle réglementaire et constitutionnel de protéger l'opinion publique par rapport au contenu médiatique qui est offert au public. Et puis, troisième niveau, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre, tous les pays n'est pas en guerre, il y a des zones de conflit.
Merci.
Il faut questionner sur la qualité du travail réalisé dans d'autres zones.
Merci Charles Mouchizi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, vous êtes aussi spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits des presses. Quelle analyse vous faites, n'est-ce pas, du rapport des GED?
D'abord, je vais commencer par faire un constat, c'est que en suivant les deux intervenants de tout à l'heure, on a l'impression qu'il s'agit de personnes qui s'inscrivent plus ou moins dans une sorte d'antagonisme, ce qui ne devait pas être le cas. D'une part, il y a une organisation de la société civile qui avise l'autorité publique qu'il y a cette dérive, et d'autre part, il devait y avoir une institution publique capable de comprendre que le combat des organisations de la société civile vise à améliorer les choses et non pas à lui donner l'occasion pour être un avocat de lui-même. Et donc, je n'apprécie pas beaucoup cette manière de se défendre du CESAC. Je ne parle pas de l'individu, mais plutôt de l'institution. Parce que le CESAC devait pouvoir prendre plutôt les conclusions, les recommandations de ce rapport comme des schémas d'amélioration de son action et pas des attaques particulièrement ciblées. Une institution publique, c'est une institution qui préside au bien de 100 millions de Congolais et non pas qui préside à son propre confort de manière isolée pour qu'elle ne se sente pas occupée. Cela dit, je crois qu'on peut bien parler du CESAC en ce terme-là comme on peut parler du pouvoir judiciaire. Parce que cette manière, par exemple, d'un procureur général à interdire aux médias de continuer à diffuser des informations sur la mort, par exemple, de l'ancien ministre Chérubin Okendé, c'est aussi une censure. La justice n'est pas propriétaire des faits. Elle a connu ces faits par d'autres personnes. Aucun membre de la justice n'a été sur place pour témoigner si oui ou non les conclusions auxquelles elle a abouti sont incontestables et donc d'une perfection incontestée. Alors que les journalistes, on sait par exemple à travers le monde, ont pu éviter des erreurs judiciaires, ont pu dénoncer des faits qui n'étaient pas suffisamment bien appréhendés par la justice, et donc à ce jour demander à des journalistes de ne pas pouvoir diffuser sur tel aspect d'information ou tel autre relève effectivement de cette censure qu'il faut dénoncer, parce que des journalistes dans le cadre de leur profession, ils exercent un métier qui aide à éclairer tout le monde, à former, à informer l'opinion. C'est pas pour eux qu'ils informent, mais c'est pour le bien-être de tout le monde.
Maître Charles,
maintenant, à revenir sur la qualité du journaliste,
Maître Charles,
et même de l'information,
Maître
oui,
Charles,
je vous écoute.
Est-ce que vous avez suivi Bruno Bolisson qui pense qu'il faut, n'est-ce pas, distinguer la censure de la régulation?
Je crois que le problème ne se trouve pas tant dans les expressions que dans les actions concrètes qui sont attendues par 100 millions de Congolais. Et donc, mon propos ne touche ni l'une ni l'autre des expressions. Et d'ailleurs, en tant que scientifique, la régulation préventive ne peut se résumer que dans la pédagogie et pas dans la censure, parce que la censure d'une information qui n'est déjà pas encore portée à votre connaissance pour que vous en examiniez la conformité de contenu, effectivement, elle est à dénoncer et il faut le prendre comme cela. L'information n'est pas encore diffusée, qu'elle devient fautive avant d'avoir été annoncée, publiée, etc. Et donc, oui, je suis de tendance à croire que c'est une censure et que c'est quelque chose à dénoncer. Et le CESAC n'a pas à se défendre là-dessus. Il a plutôt à prendre cela comme un constat et à l'examiner en interne pour voir dans quelle mesure il peut apporter des appuis nécessaires aux médias et aux journalistes pour que les contenus qu'ils pourront publier sur les thématiques désormais interdites soient plutôt conformes à la loi. Et c'est là que je voulais revenir parce que la question de la qualité de journaliste aujourd'hui se pose en termes des responsabilités de l'État et même de co-responsabilité de toutes les institutions qui interviennent dans le domaine du secteur médiatique. Aujourd'hui, si le CESAC continue à faire cavalier seul et qu'il ne conjugue pas avec la réglementation qui est le ministère et qu'il ne conjugue pas avec l'UNPC et qu'il ne conjugue pas avec les autorités qui sont dans le secteur du numérique, mais quelle action sérieuse on pense pouvoir apporter pour améliorer les choses? Alors, moi je crois que il manque fondamentalement une approche institutionnelles, structurelles, qui permettent à tous les acteurs du domaine de pouvoir interagir pour élaborer les meilleures décisions, les meilleures recommandations, les meilleures résolutions en vue d'améliorer et la qualité du journaliste et la qualité du média et la qualité de l'information. C'est de cela que nous avons besoin. Et la responsabilité de l'État est évidente. Lorsque le CESAC a la charge de protéger, de promouvoir la liberté de la presse, mais il doit pouvoir prendre en compte nécessairement ceux qui vivent de ces métiers d'informer. Combien il a travaillé pour que les sources d'information sur les domaines qu'ils qualifient d'interdits soient accessibles par ceux qui veulent travailler sur ces informations-là. Combien de fois, ben c'est vrai que de temps en temps, il a organisé des petites formations, mais une formation de 15, 30, 40 personnes pendant un ou deux jours ne peut pas renforcer les capacités inexistantes. Quelle est la stratégie du CESAC pour renforcer effectivement les capacités des journalistes et des médias pour qu'en aval, elle puisse se donner le grand loisir de pouvoir sanctionner les contenus lorsqu'ils ne sont pas conformes à la loi. Mais c'est ça des questions de fond. Il faut d'abord avoir une vision institutionnelle avant d'être réactif, plus ou moins. Pas réactionnaire, ce serait très péjoratif, je voudrais pas utiliser ce mot. Avant d'être réactif sur ce qui constitue une conséquence de ce qui existe. Et donc il faut travailler d'abord sur l'amélioration de ce qui existe et faire en sorte que en amont, on prévienne les mauvaises informations, celles qui violent la loi. Et donc, il est question ici d'une interaction institutionnelle, d'une interaction avec les structures professionnelles et d'une identification commune des besoins et des problèmes auxquels il faut faire face en lieu et place de lutter contre les effets. Les causes sont là, il faut les attaquer avec des approches correctes. Et en ce moment-là, on se sentira heureux. Je voudrais vraiment insister sur l'approche institutionnelle. Il ne faut pas que nos institutions soient toujours à la défensive et doivent être capables d'écouter les voix contraires ou même peut-être qui soient dérangeantes pour en faire plutôt des schémas de réforme interne afin de répondre aux besoins de la population.
Maître Charles,
le CESAC est composé d'une quinzaine de personnes, mais il a la charge de satisfaire 100 millions d'individus et à comprendre, rien qu'à comprendre cela, on peut avoir une autre approche, on peut avoir un autre discours.
Oui, Maître Charles Bouchézi, il y a beaucoup de réactions. Il y a comme, ça c'est Monsieur Pascal Mpiana qui dit qu'il n'y a pas de liberté absolue dans la profession du journaliste, car si les médias n'est pas bien réglementé par l'autorité des régulations, c'est un danger pour et le régime en place et pour le monde entier.
Mais ça c'est une question qui est en fourre-tout. On sait très bien que les grands prédateurs de la liberté de penser, de la liberté de critique, la liberté de la presse sont du pouvoir. Et ça, on n'a pas besoin de le dire en mille mots. Et je vous ai dit tout de suite que la justice n'est pas propriétaire de l'information sur la mort de Chérubin, par exemple, et qu'elle n'a pas à interdire aux gens de publier des informations parce que les journalistes peuvent disposer des informations beaucoup plus pertinentes que la justice n'a pas eu à trouver bien avant et qui peuvent aider à ce que le procureur revienne sur sa décision et qu'il ouvre le débat en procès éventuel sur ces crimes. Enfin, je ne sais pas si on l'appellerait comme cela, parce qu'à croire à la justice congolaise, il n'y a pas eu de crime, il y a eu plutôt suicide, pour qu'éventuellement il puisse être fait la lumière sur ce genre de choses.
Merci.
Ce qui est important ici, c'est une approche institutionnelle et les animateurs des institutions doivent être plutôt réceptifs de la critique des organisations de la société civile.
Merci.
Et elles n'ont pas d'armes, elles n'ont que la parole et le stylo.
Merci, Tivis Tivoadi. Nous allons maintenant prendre les réactions, n'est-ce pas, des auditeurs et internautes qui sont en train de réagir. Et nous allons partir où là? Je pense que nous sommes dans quelle ville? Voilà, on prend la réaction de cet auditeur. Kinshasa? Voilà, Kinshasa. Pour vous, Tivis Tivoadi.
J'ignore mon pomo depuis la ville province de Kinshasa. Les attaques violentes contre les médias dans les provinces de l'Est montrent que la sécurité des journalistes et des médias est compromise, non seulement par des groupes armés, mais aussi par des mesures gouvernementales qui les empêchent de couvrir les événements cruciaux. Les rapports de l'ONG journalistes en danger mettent en lumière une situation alarmante pour la liberté de la presse dans notre pays. ce qui traduit l'interdiction imposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de diffuser des informations relatives à la rébellion et aux opérations militaires, et cela constitue une atteinte significative aux droits des journalistes. Bref, cela démontre une volonté de contrôler l'information et laisser la liberté d'expression, ce qui est d'autant plus préoccupant dans un contexte de conflit. En clair, l'action du CSAC illustre une censure systématique qui empêche les médias de jouer un rôle essentiel de garde-fou dans une démocratie. Dommage.
Oui, tu vois, l'auditeur de Kinshasa semble vous rejoindre, mais vous avez suivi Bruno Morrison qui vous demande, n'est-ce pas, de ne pas confondre censure et régulation.
Bien, écoutez, moi je ne vais pas entrer dans cette polémique sur les termes. Je crois que Maître Mouchidi est revenu suffisamment, mais avec beaucoup de pertinence sur ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les actions que nous voyons sur ce terrain. C'est pas un problème de termes, hein, tout ça qu'on peut utiliser par les uns ou par les autres. Mais je voudrais simplement préciser que dans notre rapport, nous ne parlons pas que du CSAC. Dans notre rapport, nous parlons de la nouvelle loi, ce qu'on appelle la loi Mouyaya, que nous considérons comme une avancée dans l'amélioration du cadre légal du travail des journalistes. Bien entendu, nous parlons beaucoup de cette situation de guerre à l'est du pays parce que elle a des effets néfastes sur le travail des journalistes. Nous pointons effectivement du doigt ce que nous appelons les visages de la censure, les personnes que nous considérons comme responsables de toutes ces attaques, de toutes ces intimidations qui ne visent qu'une chose aujourd'hui, c'est-à-dire de faire taire les journalistes ou de faire taire les voix discordantes par rapport à ceux du gouvernement. Donc là-dedans, il n'y a pas que le CSAC. Nous avons publié une petite liste indicative des personnes que nous avons épinglées, qui n'est pas exhaustive non plus, mais là-dedans, on trouve tout le monde. On trouve des gens, des représentants, des gens des institutions, des gens, bien sûr, du CSAC, il y a des gens du gouvernement, il y a des représentants des rébellions, il y a des représentants des forces armées qui sont aussi responsables de son tombe des actes contre des journalistes. Il y a la justice, comme l'a dit M. Moussid, il y a des gouverneurs des provinces, donc il y a un peu de tout, c'est-à-dire on retrouve les prédateurs de la liberté de la presse aussi aujourd'hui dans tous les secteurs. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est toutes ces personnes qui sont censées défendre, protéger les journalistes et respecter un droit qui est reconnu par la Constitution, ce sont ceux-là justement qui aujourd'hui sont les premiers responsables de ces violations. Et l'impunité se justifie justement par le fait que toutes ces personnes sont détentrices d'une quelconque parcelle de pouvoir, et donc ils se sentent tout à fait à l'aise de pouvoir s'en prendre aux médias parce qu'ils savent qu'ils ont un pouvoir, ils savent que la justice est inopérante par rapport à eux. C'est pour ça que nous avons dit, nous mettons des noms sur des visages et nous allons faire des campagnes au niveau international pour que des sanctions ciblées soient appliquées contre ces personnes.
Voilà, le CSAC dit que il donne l'impression d'être seul, n'est-ce pas, dans ses rôles, dans cette mission, n'est-ce pas, de rappeler aux journalistes la notion de responsabilité pour se sécuriser, pour s'autoprotéger dans un contexte de guerre. Apparemment, vous ne l'aidez pas, vous laissez le CSAC travailler seul, et lorsque le CSAC prend des initiatives, vous commencez à fustiger, à critiquer cela.
Je l'ai dit au début, moi je pense que, et je crois qu'il l'a rappelé lui-même, que entre autres missions du CSAC, c'est de pouvoir défendre la liberté de la presse, c'est ce que nous faisons, donc sur ce terrain-là, nous devions être ensemble et pas nous opposer. Et vous voyez bien que nos rapports, comme j'ai dit, ce ne sont pas des paroles d'évangile, c'est-à-dire nous mettons des informations, nous donnons des faits, nous donnons des dates, nous donnons les noms des gens pour que ça serve effectivement de débat, et si les gens qui estiment que nous avons donné des informations qui n'est pas correctes, ils viennent répondre. Nous avons invité à la présentation de notre rapport le président du CSAC, nous avons envoyé une lettre, une invitation personnelle pour qu'il vienne. Il s'est fait représenter, mais son représentant n'est pas resté jusqu'à la fin pour suivre les débats, parce qu'ils en ont suivi les débats. Donc nous voulons bien travailler ensemble, avec ça, discuter avec les CSAC, parce que je pense que nous défendons tous la même cause, c'est la cause de la liberté de la presse, et nous tous nous voulons faire avancer cette cause, c'est-à-dire faire avancer, améliorer les conditions générales de travail des journalistes et renforcer la sécurité des journalistes, parce que c'est de l'intérêt de notre pays.
Merci, Bruno Bonissom. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Chikapa.
Espérant Jardel Ilunga Bayamba de Chikapa. Il est vrai que même dans la démocratie, ce genre d'actes condamnables et malveillants ne manque jamais, mais la prudence oblige les hommes de médias à contourner ces actes de répression par professionnalisme, notamment avec le respect strict des mesures exceptionnelles telles que prises par l'autorité de régulation. À cet effet, nous rappelons toute tendance, bien évidemment, la République démocratique du Congo, c'est le seul patrimoine commun qui nous reste. Par ailleurs, nous demandons à l'autorité de régulation, aux services de sécurité, ainsi qu'aux autorités gouvernementales, de souvent appliquer les mesures de clémence pour les hommes des médias, sauf s'il y a atteinte à la sécurité nationale et si la souveraineté nationale de l'État est sous menace via les messages propagés par les médias.
Oui, il y a aussi cet autre auditeur, en fait, il a c'est un internaute hein, qui dit ceci, je crois que le CESAC vise la restriction du journaliste dans la communication, ce qui n'est pas à encourager. J'aurais voulu que le CESAC travaille sur le nettoyage de ces domaines qui a trop de brebis galeux, des gens qui s'improvisent journalistes avec trop d'imperfections dans la communication, capables de transformer une souris, je crois que c'est ce qu'il dit, un éléphant ou vache. Voilà, Bruno Bourisson.
Je commence par le dernier intervenant qui a semblé s'opposer à nous, mais en fait il nous a rejoint à la fin au développement. Et je comprends également l'intervention du premier intervenant qui est à Kananga. La Kananga qui est quand même une zone très bouillante en termes d'information, en termes de politique, en termes de débat de société également. Bon, par rapport à mes deux co-débatteurs, je ne sais pas si M. Mouchige m'a bien suivi. Parce que quand il dit que c'est ça qu'il veut voler en cavalier solitaire, en solo, en isolationniste, c'est le contraire de tout ce que j'ai dit. Et je crois que le secrétaire exécutif de GED m'a bien compris, c'est-à-dire que le travail que nous devons faire, c'est un travail effectivement de responsabilisation des professionnels des médias. Et c'est ça que la régulation n'intervient qu'en troisième niveau, au troisième étage. Il y a d'abord l'autorégulation au niveau du journaliste lui-même, au niveau de l'UNPC, en fait, c'est ça qui intervient. Si M. Mouchis pense que le travail de responsabilisation ou de nettoyage des journalistes est un travail banal, il se trompe dangereusement. Parce qu'il est spécialiste des droits de presse, vous l'avez présenté, il doit s'intéresser de plus près par rapport au comportement des journalistes. C'est extrêmement important. Et je voudrais le rassurer que je suis aujourd'hui vice-président du CESAC, mais M. Tivis connaît. Moi, je suis journaliste professionnel. J'ai été pendant 14 ans rédacteur en chef pour directeur des informations des médias connus, la RTGA, pour ne pas faire la publicité. Donc, je suis moi-même journaliste sur le plan de mon essence. Et je comprends les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans la responsabilisation de la presse. Le problème est là. Qui est journaliste et qui ne l'est pas? C'est ça toute la problématique. Et je crois que M. Tivois...
Mais la loi, elle est claire, n'est-ce pas, par rapport à ça?
Oui, mais la loi... j'en viens. La loi est claire. Mm. Mais est-ce que la loi est appliquée? Non. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous bombarde aujourd'hui comme contenu médiatique n'est malheureusement pas produit que par des journalistes.
Alors, lorsqu'on vous reproche...
Il y a des moutons noirs.
Lorsque vous voulez réguler, vous allez plutôt demander aux journalistes, enfin, lorsque vous au lieu de réguler, vous interdisez aux journalistes de faire son travail.
Non, est-ce que vous ne pensez pas que... J'ai parlé de la directive. Les termes vaut son pesant d'or. La directive, c'est une recommandation générale, c'est une orientation générale. On n'a pas coupé un signal d'un média parce qu'il voulait aller faire les reportages de guerre. Encore qu'on ne s'improvise pas des reportages de guerre, hein. La plupart de ceux qu'on vous dit reporter de guerre, c'est produit par des laboratoires, par des androïdes, comme le dernier intervenant l'a dit. Une souris, on la transforme en éléphant.
Le dossier Cherubé Okende, évidemment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Mouchise, il a rappelé, hein. Vous avez interdit aux journalistes d'en parler.
Non, c'est pas nous. le CSAC n'a jamais traité. Maître Moussi l'a bien précisé, il s'agissait d'un bureau du procureur. Je ne veux pas y revenir parce que c'est un dossier que la justice a classé. Mais par rapport aux journalistes, je suis journaliste, d'émanation journaliste. Et là, on peut tout crier aujourd'hui, on peut tout dire, tant qu'on n'arrivera pas à faire ce travail-là suffisamment de responsabiliser les journalistes par rapport au contenu qu'ils produisent, ça sera difficile. Encore qu'aujourd'hui, la frontière entre journalistes, influenceurs, internautes, youtubeurs et tout, la frontière est devenue difficile à cerner. Alors, on défend qui? On défend des journalistes, on défend des youtubeurs, on défend les internautes qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune information. C'est cela le rôle du CSAC, qui ne se limite pas à l'accompagnement fantaisiste des journalistes. Non, le CSAC protège, comme Maître Mouchis l'a dit, des millions de Congolais qui doivent avoir consommé une information de qualité, une information responsable. De la même manière qu'on ne peut pas demander à un couturier d'opérer une femme qui a besoin d'une intervention en césarienne, de la même manière, on ne demandera pas à un fossoyeur de s'improviser journaliste.
Merci. Désolé. Maître Mouchizi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis Kisangani dans la Tchopo.
Jean Tokoko, j'appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Il est vrai que le but de la presse est d'informer, de former et de divertir. Alors, catégoriser les informations à diffuser et celles à ne pas diffuser par les journalistes constitue non seulement une entorse de la profession du journalisme, mais aussi une violation grave du droit à l'information garanti à la population par la Constitution dans son article 24. Cependant, nous invitons aussi les journalistes au sens du professionnalisme afin d'éviter de propager des fausses informations susceptibles de désorienter l'opinion tant nationale qu'internationale.
Maître Charles Moufizi.
Je note dans les débats une soif de liberté, une envie d'être informé, un besoin d'être formé par les médias. Personne, en tout cas très peu de gens, se sont personnellement attaqués contre aux journalistes et aux médias. Il en reste plutôt que les institutions qui sont dans ce secteur devaient pouvoir prendre la même conscience et se dire nous avons besoin de renforcer ce qui existe parce que tel est le vœu de l'opinion. En tout cas, du peu d'opinion que j'ai entendu tout de suite, il n'y a eu aucune attaque, aucune injure particulière contre les informations, contre les médias. On semble relever un certain nombre de limites, mais on ne dit pas que ce sont des gens inutiles, qui ne font rien, etc. Et c'est déjà suffisant pour que les institutions publiques, et notamment le CSAC, parce que nous avons la chance d'avoir le CSAC aujourd'hui en ligne, aient plutôt l'amabilité de mettre en place un programme structurant pour l'amélioration du contenu. Et le contenu, il ne peut pas l'améliorer sans améliorer la qualité du journaliste. Il ne peut pas l'améliorer sans améliorer la qualité non plus des médias. Et c'est là que je suis en train d'appeler à une interaction pour que les actions dans ce secteur-là soient coordonnées de manière efficace et responsabilisées pour que des résultats soient plutôt une sorte de conclusion d'une conjonction d'actions. Lorsque l'on parle de la régulation, on parle essentiellement de la pédagogie. Et la pédagogie a pour contenu essentiel la formation. Et donc, le CSAC devait pouvoir investir davantage dans la pédagogie avant de s'attaquer aux conséquences que sont l'information ou le contenu de l'information, si vous voulez bien, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la loi. Et lorsque le CSAC est conscient, parce que je l'ai entendu tout de suite, qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont avertis sur les faits de la guerre, sur le droit de la guerre, il est question ici de mettre en place des groupes thématiques de journalistes qu'il peut former lui-même à travers toutes les provinces du pays sur comment couvrir l'information en temps de guerre. Et le CSAC ne l'a pas fait. Le CSAC, on dirait qu'il se bat au quotidien pour avoir des moyens de son propre fonctionnement. Moi, j'ai été au CSAC, je sais à peu près de quoi il est question.
C'est pas très fort, ça.
Mais les projets en termes structurants, il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'ils prennent ça comme une attaque. C'est plutôt un constat et un conseil que je donne pour que les choses aillent mieux. Je vous donne un conseil, je vous donne un fait. Est-ce que vous savez que la loi organique de 2011 qui régit le CESAC donne à cette institution le droit de réguler tous les moyens de communication de masse? Ça veut dire aussi les affiches. Les affiches qui sont postées sur toutes nos routes, qui jonchent toutes nos routes,
les masses médias,
de pouvoir avoir un avis de conformité. Un avis de conformité, c'est pas seulement pour l'argent qu'ils vont payer, mais c'est aussi pour la protection de la moralité publique, la protection surtout de l'enfance et de la jeunesse. Et donc, si le CESAC avait ne serait-ce que l'idée de l'immensité de ce travail, il s'y mettrait. Et il demanderait au gouvernement, au ministère du budget ou du ministère des Finances, de lui affecter un comptable de recettes.
Merci.
Et de mettre en place la grille nécessaire pour un avis de conformité et commencer à avoir de l'argent sur chaque affiche. D'ailleurs, ça va permettre à ce que beaucoup d'afficheurs commencent à se résigner, parce que afficher sans l'autorisation du CESAC, sans un avis de conformité, sera constitutif d'une infraction. Et ça va faire en sorte que nos rues, nos routes soient un peu plus saines. Ça va faire en sorte que certaines affiches
ne parlent pas
des choses qui choquent nos mœurs. Ça va protéger la jeunesse.
Maître
voilà
Charles,
les choses sur lesquelles il faut travailler en tant que régulateur.
On a compris.
Et pas rester à se plaindre sur les attaques. Sur les recommandations formulées par des organisations de la société civile.
On a compris, les organisations
de la société civile n'étant que des partenaires
on a compris.
Et sans plus.
On a compris, on est à la fin de l'émission, Maître Charles Mouchizi. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Vous êtes aussi spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Qu'est-ce que vous allez recommander en guise de conclusion, n'est-ce pas, pour que l'on ne puisse plus se retrouver devant un débat où les uns dénoncent la censure, les autres parlent plutôt d'une interpellation du journaliste face à sa responsabilité, n'est-ce pas, pour s'auto-protéger, protéger, voilà. Voilà.
Ma recommandation sera la même que j'ai formulée depuis le début. Le problème de concept ne se pose pas, parce que ceux qui élaborent un concept, ils en ont le contenu. Peut-être que le CESAC n'y a pas pensé avant, mais il peut avoir aussi un contenu. C'est une question de conjonction, de coaction pour pouvoir avoir la même compréhension des faits et pour pouvoir définir les schémas d'intervention. Si chaque institution, si chaque structure du secteur continue à œuvrer de manière isolée, il n'y aura pas beaucoup d'avancées, parce qu'alors, il n'y aura pas une action fondée sur une compréhension partagée et du problème et des solutions qu'on veut y apporter. Et donc, je conseille une approche structurelle, inter-acteurs, pour que chaque fois que des questions de la profession sont adressées, elles soient adressées de manière la plus efficace. D'ailleurs, ça fera qu'elles soient efficaces, parce qu'elles seront respectées venant de cet aspect pluri-acteurs. Je rappelle qu'il n'y a pas que dans la profession des journalistes qu'il y a de mauvais. Dans la profession d'avocat, il y en a. Dans la profession des magistrats, il y en a. Dans les enseignants, il y en a.
Merci.
Et donc, cette question ne peut pas être un blocage pour la réflexion en vue de l'amélioration de ce qui existe.
Merci, Tivis. Tu vois, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ODG Journaliste en danger. Et qu'est-ce que vous recommandez, n'est-ce pas, pour que l'on soit les organisations des régulations puissent être en mesure d'aider les journalistes ou d'orienter les journalistes quand celui-ci doit faire son travail dans une zone ou dans un contexte de combat?
Écoutez, j'ai entendu le vice-président du CESAC faire un appel à la responsabilisation de tous, à la responsabilisation des journalistes. Mais je ne voudrais pas que cette responsabilisation des journalistes soit une sorte d'infantilisation des journalistes, parce que parmi les journalistes, il n'y a pas que les clowns, hein, comme il l'a dit, même si cette expression ne l'engage que lui. Je connais dans notre presse ici des journalistes professionnels, ça veut dire des journalistes qui connaissent bien leur travail, qui savent les limites de la liberté, de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire, et donc ils n'ont pas besoin des directives ou des décisions. Même s'il dit la directive n'a pas été une décision, mais en tout cas il a été ressenti au niveau de la profession comme une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des journalistes et qui, comme je l'ai dit, beaucoup aujourd'hui pratiquent l'autocensure par rapport aux questions qui concernent la guerre à l'Est. À la suite de cette directive ou recommandation, les organisations professionnelles des médias s'étaient réunies et ils ont rendu publié un communiqué dans lequel, effectivement, ils exprimaient toutes leurs inquiétudes par rapport à cette directive et demandaient, effectivement, au CESAR de pouvoir la lever. Donc, tout ce que je peux demander aujourd'hui, c'est que, effectivement, toutes les mesures, qu'elles soient levées, toutes les mesures et décisions prises par le CESAR ou par d'autres structures ou instances qui tendent à restreindre la couverture médiatique de cette guerre et que dans notre pays, on ne puisse pas considérer toutes les voix critiques contre le gouvernement comme étant des actions de démobilisation ou des actions qui seraient engagées contre les intérêts du pays. Parce qu'après tout, la démocratie, c'est quoi? C'est une autre chose que le droit d'avoir ses opinions, même des opinions contraires, et de pouvoir les exprimer.
Merci, Bruno Bonisson. Vous allez aussi conclure. Hein. Vous êtes vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC. Quel est le vœu, quel est le souhait de CESAC pour que celui-ci ne soit pas chaque fois derrière les journalistes en train de l'interpeller par rapport à son rôle de la société, surtout quand il s'agit d'un contexte de guerre?
D'abord, je me réjouis du fait que, contrairement à ce que d'aucuns pouvaient penser au début, on se rejoint avec M. Tivis Tivadi, qui a un besoin de responsabilisation, de rappel à la responsabilisation des journalistes. Je n'ai pas dit que tous les journalistes sont des clowns. J'ai dit qu'il y a une bonne catégorie de journalistes qui ne prennent pas au sérieux leur travail. Ça, c'est connu de tout le monde, en commençant par les élèves de l'école maternelle. Je voudrais dire à Maître Mouchizi de faire très attention dans certaines de ses affirmations. Il a été au CESAC, peut-être de CESAC, le comité d'avant. Moi, je suis très respectueux des collègues qui ont dirigé le CESAC et dont parmi eux, il y en a ça qui continue dans le nouveau comité. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lire la feuille de route. Je l'inviterai à venir lire la feuille de route du CESAC actuel avec tous les collègues, les anciens comme les nouveaux. Il y a toute une batterie de projets qui sont élaborés. L'actualisation de la directive sur la télédistribution, sur les affichages, sur la publicité, mais également tout un lot de projets élaborés dans le sens qu'il a évoqué. Donc, au lieu de critiquer...
Est-ce que vous communiquez par rapport à ça?
Nous communiquons. Nous venions d'organiser une matinée de sensibilisation sur la criminalité à travers les réseaux sociaux. C'était à Fleuve Congo. Donc, je suis d'accord avec lui qu'il y a ce travail de synergie qui doit être fait. Et le CESAC n'évolue jamais en vase clos. Et c'est ça qu'il travaille et devrait encore travailler davantage.
Merci.
Je voulais les rassurer en synergie avec les autres organisations, GED, ministère, UNPC et tous les autres.
Merci.
Mais je l'inviterai à venir récupérer la feuille de route du CESAC gratuitement et sans beaucoup de peine. Ça lui permettrait de faire des critiques éclairées.
Merci. Merci à vous, Bruno Bonisson.
Avec le souhait que les journalistes resteront libres, mais plus responsables.
Merci à Bruno Bonisson, à Monsieur Tivis Tivadi, à Charles Bouchizi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Kéline Kouté et Arcel Kajourou qui l'ont réalisé, à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation de Clément Chimanga, Jonathan Fouanani, d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.